6h48.
Le journal de l'économie avec François Geffrier.
L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Les chanteuses et chanteurs français exportent de mieux en mieux leurs tubes. Atos tente une stratégie moins optimiste pour éviter de décevoir à nouveau les marchés. Et puis on verra ce que les partenaires sociaux pensent du dernier ballon d'essai du gouvernement sur la réforme de l'assurance chômage.
Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé la torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais.
Elle sera l'une des vedettes de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris le 26 juillet. Aya Nakamura est déjà sur Internet en France et dans le monde. Une immense star, preuve que la langue française n'est plus une barrière à l'export, en tout cas plus dans la chanson. Hier, le Snap a annoncé une progression de 30% des titres single ou album récompensés par un disque de platine, de diamant ou d'or pour 250 artistes, grâce entre autres aux plateformes de streaming. Alors le rap domine pour la première fois les ventes à l'international. La musique électro n'est pas très loin. Du côté des artistes, on trouve Angèle, Stromae, mais donc aussi Aya Nakamura, comme nous l'explique Alexandre Lache, directeur général du syndicat des maisons de disques.
En 7 ans, le nombre d'artistes certifiés or, platine ou diamant à l'export a été multiplié par 7, est passé de 65 à 430. Et ça, c'est effectivement un vrai phénomène, un vrai indicateur du succès de la production locale. Cette année particulièrement, on peut saluer les performances à l'export d'Aya Nakamura, qui est vraiment une ambassadrice du soft power français et qui exporte sa musique partout dans le monde. Elle réalise des scores aussi bien en Asie du Sud-Est qu'aux Pays-Bas ou aux États-Unis. Il y a beaucoup d'autres artistes produits en France qui ont développé une audience mondiale. Je pense à Jane, je pense à Tess Cadet, qui est un DJ qu'on connaît peu en France, mais qui a réalisé une performance incroyable, notamment sur les réseaux sociaux chinois, avec plus de 2 milliards d'écoutes. Et puis, on pense également à Kungs, à Sofiane Pamar, Make the Girl Dance.
Alexandre Lache, le patron du Snap. Les journées se suivent et ne se ressemblent pas pour Atos. Après l'annonce de l'état du futur rachat des activités stratégiques du groupe français, Atos a annoncé hier une nouvelle série de mauvaises nouvelles, avec une revue à la hausse des besoins de financement. Le groupe veut finalement effacer 3 milliards de dettes contre 2,5 milliards initialement et a besoin d'1,7 milliard d'euros d'argent frais. Céline Cajoulis nous explique pourquoi ce genre de vision.
Une dégradation subite et volontaire de tous les indicateurs du plan d'affaires pour les trois divisions, digital, cyber et infogérance, qui correspond en fait à un changement de vision de l'entreprise, non plus en misant sur une situation quasi normale, mais en prévoyant au contraire une situation très dégradée pour ajuster au mieux les ratios financiers, en particulier sur la liquidité, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises dans quelques semaines, ce qui obligerait l'entreprise à revenir devant les créanciers pour demander une rallonge, une vision plus financière portée par le président d'Atos, ancien banquier Jean-Pierre Mustier, mais qui ne remet pas en cause la direction actuelle. Une nouvelle qui ne semble d'ailleurs pas trop inquiéter les créanciers habitués à ce genre de situation. Des créanciers rassurés depuis l'annonce ce week-end du rachat par l'État des actifs stratégiques, ce qui leur permet d'y voir un peu plus clair pour préparer au mieux le plan de refinancement qu'ils présenteront à la fin de la semaine.
Les marchés qui ne sont pas paniqués et qui applaudissent même plutôt les différentes annonces d'hier concernant Atos. L'action a gagné 19% en clôture. Les marchés financiers qui globalement, pour ce qui est de Wall Street, ont fini dans le vert. 0,38% de hausse pour le Dow Jones, 0,35% pour le Nasdaq. Le CAC 40, lui, a reculé de 0,29%. L'euro vaut 1,0705$. Le baril de Brent est à 87$. Le Nikkei vaut 38 364 points. Le Nikkei est en hausse, mais on suit de près plutôt la monnaie japonaise. Beaucoup de turbulences sur le yen qui est tombé au plus bas depuis 34 ans face au dollar. 1 dollar vaut 160 yens. Depuis le début de l'année, la baisse est de 12%. Le yen a repris de la hauteur en séance, mais sa faiblesse a de quoi nourrir quelques inquiétudes, comme nous l'explique Joachim Jean, gérant spécialiste des actions japonaises chez Mansartis.
Plus le yen est faible, plus il est cher pour les Japonais d'importer des matières premières ou des biens, ce qui soutient d'ailleurs aujourd'hui les mouvements d'inflation au Japon. Mais l'impact le plus important aujourd'hui, c'est sur le coût de la vie des Japonais, avec des progressions de salaire qui ne suivent pas la progression de l'inflation, en raison justement de la hausse des prix des biens importés. Ça pourrait faire éventuellement tomber le pays en récession. On l'a vu au dernier trimestre, on n'était pas loin d'être en récession technique au Japon.
Pour ce qui est de l'économie française, on saura à 7h30 ce matin, dans 40 minutes, quel est le niveau de la croissance française mesurée par l'INSEE au premier trimestre. On s'attend à 0% de croissance. La Banque de France, elle, évoque 0,2% de croissance sur ce premier trimestre. Le Parisien révélait hier un nouveau ballon d'essai du côté du gouvernement pour la future réforme de l'assurance chômage. Augmenter le délai de carence pour les salariés licenciés ou ayant signé une rupture conventionnelle. Délai de carence avant d'obtenir des indemnités chômage. La ministre du Travail a évoqué cette idée devant certains représentants syndicaux. Romane Brizard, les syndicats sont vraiment très frileux.
6 mois maximum après la rupture de contrat pour percevoir ses droits, comme aujourd'hui. C'est le bon délai, estiment les syndicats. Le rallonger fragiliserait le système, pense-t-on du côté de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Cela pourrait par exemple, sous la pression, amener certains demandeurs d'emploi à signer trop rapidement pour un poste qui ne leur correspondrait pas. Même son de cloche côté CGT qui dénonce un durcissement scandaleux au moment où les licenciements économiques se multiplient. Retarder ces allocations reviendrait à reprendre les indemnités de licenciement obtenues par les salariés après un plan social, illustre un syndicaliste. Quelles économies pourraient rapporter cette mesure ? Le ministère ne s'est pas encore prononcé sur ce point et tente plutôt de faire oublier, je cite, cette fuite. Toutes les pistes sont sur la table, martèle le cabinet de Catherine Vautrin.
La ministre du Travail qui se mobilise aussi sur le sujet des accidents du travail. Les syndicats réclament le renforcement des pouvoirs des représentants du personnel ou encore le rétablissement des commissions de santé qui ont été supprimées il y a 4 ans. En 2022, ce sont 738 personnes qui sont mortes après un accident du travail, c'est-à-dire 2 par jour. Et les familles se retrouvent bien seules après ce genre de drame, comme Caroline Dilly, qui a perdu son fils il y a 2 ans et demi, couvreur zingueur sur un chantier de Chinon en Indre-et-Loire. Elle témoigne au micro donc de Romane Brizard.
On commence par faire les obsèques. Alors voilà, déjà c'est le moment où c'est pas sympa. Mais alors juste derrière les obsèques, en fait, s'enchaîne tout le reste. Les banques, la succession chez le notaire. Et puis après, on s'attaque aux procédures judiciaires. Pour tout ce qui est de toutes ces enquêtes, il faut trouver un avocat. Malheureusement, quelques avocats profitent de cette situation où les familles sont complètement déboussolées et sont perdues en fait dans les procédures judiciaires. Pour ce qui est des assurances, dans le cas de mon fils, par exemple, la prévoyance qu'il avait a versé un petit capital d'essai, qui ne couvre pas les frais d'obsèques, par exemple, on n'a de soutien de personne.
Voilà, Caroline Dilly, qui fait partie du collectif Stop Mort au Travail, association qui a sorti un guide avec l'adresse du Grand Est pour accompagner les familles. Il est disponible sur Internet. Comment rouler plus vert ? C'est une question sur laquelle vont se pencher les députés cet après-midi avec une proposition de loi sur les flottes d'entreprises. On en reparlera tout à l'heure dans le journal de 7h30. Pour la première fois depuis sa création en 2008, la société lituanienne Vinted est rentable. C'est le symbole un petit peu du marché de la seconde main. Elle a dégagé l'an dernier un bénéfice de 18 millions d'euros. Profit symbolique qui illustre cependant ce dynamisme du marché de la seconde main, les achats notamment de vêtements d'occasion. Il n'est pas certain toutefois que tous les acteurs de la filière puissent en profiter, comme nous l'explique Olivier Salomon, associé chez Alix Partners, c'est spécialiste de la distribution.
Ça devient intéressant pour certains acteurs, comme Vinted, qui a connu une forte croissance et qui a atteint désormais un seuil critique. En fait, c'est une activité qui a pas mal de coûts fixes. Et donc, il faut quand même avoir des volumes suffisants pour pouvoir couvrir les coûts de fonctionnement de la plateforme, les coûts marketing pour se faire connaître, parce que c'est quand même une activité qui a besoin d'acheteurs et de vendeurs pour que ce soit intéressant pour tout le monde. L'autre élément, c'est la rentabilité que l'on peut dégager autour des services. Vinted a développé un service de livraison. C'est un vecteur de revenus supplémentaires et de marges supplémentaires pour la plateforme. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait depuis un an et demi.
On évoque la mobilisation pro-Palestine à la Sorbonne des débuts du journal de 7h. C'est dans quelques instants. Restez avec nous.